Moi, j'ai parlé à Allison. Allison, c'est une jeune femme de 30 ans qui souffre d'un cancer du sein, de stade 4.
Et elle est rendue aux soins palliatifs.
Oui, elle, vous avez compris que vu son âge, et c'est un cas qui est très, très rare. J'ai essayé de trouver les statistiques les plus récentes. Ce que j'ai trouvé, c'est les statistiques canadiennes de 2014 qui disent que parmi tous les nouveaux cas de cancer du sein qu'on a dépistés cette année-là, les femmes de moins de 30 ans représentaient 0,05% des cas. Et c'est environ 125 femmes à travers le Canada au complet qui avaient été diagnostiquées à moins de 30 ans.
Elle a
pigé ce numéro-là. Ce qui est particulier, par exemple, dans le cas de Allison, et je vais vous laisser raconter comment c'est arrivé, c'est qu'elle a eu ses premiers symptômes dans la jeune vingtaine. Donc, dans la jeune vingtaine, il y avait quelque chose qui fonctionnait pas au niveau de sa santé et les médecins n'ont pas voulu aller plus loin dans le dépistage du cancer du sein. On écoute ce qu'elle avait à dire.
C'est un carcinome canalaire infiltrant. C'est un triple positif. C'est un cancer du sein métastasé aux os. J'aurais probablement pu avoir une chirurgie, avoir de la radiothérapie, mais je suis rendue trop avancée qu'il n'y a rien à faire. Il y a plusieurs stades au niveau du cancer. Le stade 0, 1, 2, 3, 4. Puis, probablement que aux premières fois où j'ai senti des chocs électriques dans mon sein, j'aurais poussé pour qu'il y ait plus loin. On aurait pu me prendre à un stade 0 ou un stade 1. Je dirais depuis mon début vingtaine, je ressentais des chocs électriques dans le sein. J'en ai parlé à mon docteur de famille, puis il me disait « Oh non, t'es trop jeune, ça peut pas être le cancer du sein. » Je dis « Oui, mais ça me fait mal. » Puis là, il me parle, puis il me dit « Ah, mais tu sais, t'as une forte poitrine, fait des gros seins, c'est souvent kystique, fait que je m'inquiète pas pour ça. » Il dit « Mais pour te rassurer, on va aller faire une écho. » Je sais pas s'ils ont pas bien cherché ou ben non, si les scans ou l'échographie qui a été passée à ce moment-là était assez poussée. Mais probablement que j'avais déjà un cancer du sein parce que maintenant, 10 ans plus tard, je suis métastasée aux os puis au foie. Là. Fait que ça a été quand même assez rapide. Puis c'est arrivé à plusieurs reprises que je lui ai reparlé des mêmes symptômes puis il m'a jamais voulu me faire une mammographie. Quand j'en ai reparlé après, il m'a dit « C'est normal, ton échographie est sortie normale, je vois pas pourquoi on irait plus loin. » Fait que moi, quand on me dit que c'est normal, ben moi, un médecin, pour moi, là, ça a toute la notoriété du monde. J'ai fait confiance, c'est sa job. J'ai continué ma route puis je me suis dit « Ben, t'es allé voir, il y a rien. » À l'écho, il voyait pas parce que le problème était à l'intérieur du sein, très loin là, dans le sein. Il a fallu vraiment voir. Ils ont vu la majeure partie du cancer au niveau de la mammographie.
Donc, il aurait fallu passer une mammographie.
Exact. Ça, pourquoi?
Dès le départ, le médecin n'a pas voulu. Non. Il y avait peu de chance à son âge. Est-ce qu'il y a des pressions sur les médecins de ne pas trop envoyer de gens passer de tests parce que ça coûte cher? Ça, on ne le saura jamais. Là. Les pressions sur les professionnels pour essayer de ne pas trop alourdir les listes d'attente, etc. Ça, c'est tabou, là. On n'en parle pas, mais elle l'a pas eu, le test.
Elle l'a pas eu, puis elle a continué à avoir des symptômes. Vous comprenez que c'était pas un kyste qu'elle avait. C'était un cancer qui était en train de grandir en elle. Alors, j'ai posé la question, comment elle a finalement eu son diagnostic plusieurs années plus tard? Pourquoi elle est retournée consulter? C'était quoi ses symptômes à ce moment-là? Ouais.
J'avais des symptômes de douleur osseuse, puis j'ai été parler à cette docteur-là parce que j'avais de la difficulté à respirer, puis j'avais une masse que j'avais pas avant sur un sein, puis j'ai pas voulu la déranger parce que les docteurs ils sont occupés puis il y a du monde qui attend. Quand j'ai vu des masses là, je m'attendais peut-être, mais ils m'avaient tellement mindé avec le fait qu'il y a des gros seins c'est kystique, que ça doit être un kyste qui est sorti. J'étais vraiment accrochée au fait que j'avais rien. Fait que j'ai pas cru bon de lui dire. Fait que moi j'allais pour mes douleurs quand je respirais pas par la masse que j'avais sur le sein. Puis finalement ben j'en ai parlé. Puis elle m'a dit ah j'aime pas ça. Elle m'a envoyé passer une échographie mammaire dans une clinique de dépistage à Montréal. Puis la radiologiste qui était là, elle m'a pris d'emblée. Elle m'a dit on va te faire passer une mammo tout de suite.
Et là.
Le diagnostic est tombé,
mais trop tard.
Trop tard, effectivement.
Là, s'il y en a qui disent, hey, elle aurait pu aller chercher un deuxième diagnostic dès le début, ben oui, aller au privé. Mais là, il y a des coûts, là.
Oui, mais le médecin, il dit qu'il n'y a rien. Je veux dire, elle a raison. Un médecin, pour moi,
je la blâme pas, là.
C'est ça.
Mais admettons qu'elle a encore des symptômes et qu'elle doute. Il y a, pour certaines personnes qui ont les moyens, une autre option.
Oui, ça, oui.
Non, mais il ne faut pas le cacher au Québec. C'est pas vrai qu'il y a juste une voie, là. Il y en a une voie express, une voie réservée. C'est parce que les gens qui sont là, ils veulent pas le reconnaître, là. Mais il y en a une. Tu sais, tu peux avoir accès à un médecin 24 heures au privé, avoir accès à certaines radios, certains tests, pardon, si tu payes.
Ensuite, la prochaine question que j'ai posée, je me sentais vraiment pas bien d'y poser, mais il fallait que je le fasse. Au nom de l'entrevue, il fallait que je lui demande. J'ai demandé est-ce qu'elle avait des chances de survie. Autrement dit, est-ce qu'elle va mourir de son cancer?
Au moment où on se parle.
Et sinon, combien de temps lui reste à vivre?
Non, à moins qu'il y ait un médicament miracle qui sorte, là. Mais oui, je vais décéder de mon cancer. Ben, mon oncologue d'emblée, lui, en donne pas. Il dit qu'il veut pas que les patients s'assoient là-dessus. Puis je le comprends tout à fait. Là. Parce que, tu sais, moi, si le jour où j'ai eu mon diagnostic, il m'avait dit, écoute, il te reste un an, j'aurais tout flambé, puis je serais partie sur une dérape pendant un an, puis au 364e jour, je me serais assise, puis j'aurais attendu la mort. Là. Mais non, il m'a pas donné de deadline. C'est via un avocat par rapport à un problème de garde, là, plus tard, que lui a dû le demander pour pouvoir aller en cours. Puis c'est lui qui a dit c'est un deadline de 2 à 3 ans. Puis là, je suis entre ma deuxième et ma troisième année. Ce qui est dommage avec ce type de cancer-là, c'est que c'est sournois. On peut aller super bien une journée, puis le lendemain, le corps, il bat trip, puis décide que c'est terminé. Aussitôt qu'on a un diagnostic de stade 4, on tombe dans le monde palliatif. Mais palliatif vient du mot pallium, qui veut dire entouré. À mon avis, à moi, c'est le plus beau stade parce que c'est le stade où on ne s'acharne plus. On veut vraiment me rendre mon quotidien agréable, pas de nausées. Tu sais, la vie continue. Il y a des beaux traitements qui peuvent nous pousser plus loin. On sait jamais, demain matin, il y aura peut-être un traitement au cancer. C'est ça qu'on veut, nous. Fait que on veut juste me prolonger jusqu'à temps qu'il y ait un nouveau médicament.
Je comprends, mais on essaie. Je dis toujours, on essaie de comprendre. Il y a plein de monde qui doivent dire, moi, si il me reste un an, je flambe tout, puis je pars, puis ouais, mais là, d'un coup, ils trouvent de quoi. Ouais. Elle a encore cet espoir-là, puis c'est normal, s'ils trouvent un remède, s'ils trouvent de quoi, puis c'est-tu 6 mois, c'est-tu un an, le bain dit, il n'y a pas de... Ça peut être plus.
Ouais.
Vous allez entendre, Alison va vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer. La prochaine, moi, quand elle l'a dit, j'ai vraiment fait le saut, mais écoutez bien pourquoi elle affirme qu'elle est contente d'avoir le cancer. Et vous l'avez entendu parler d'un problème de garde tantôt. Alison, elle est mère d'un jeune garçon de 6 ans. Au moment où elle a eu son garçon, elle avait le cancer, mais elle ne savait pas qu'elle l'avait. Parce que son cancer est apparu dans la jeune vingtaine.
Compte tenu de tout ce qu'elle a, dit. Là,
donc ouais. Là, ce que je lui ai demandé dans la deuxième partie de la clip que vous allez entendre, c'est comment on accepte le fait qu'on a eu un enfant et qu'après ça, on a un diagnostic fatale et que notre enfant va grandir sans sa mère.
Il y a quelque chose que je dis qui choque souvent les gens, là, c'est que je suis vraiment contente d'avoir le cancer parce que je serais restée dans un beat de vie dans lequel j'étais pas bien. Je me serais pas écoutée. J'aurais continué d'aller travailler, de prioriser mon emploi, de prioriser les finances plutôt que la famille. Vivre la vie, là, belle vie, puis de décéder, de dire, écoute, j'ai vécu pleinement, là. J'aurais pas eu ça avant. Maintenant, le cancer, il m'a amenée ailleurs. Ça m'a amené à écrire un livre, ça m'a amené à aider des gens, ça m'a aidé à laisser ma trace, à donner une éducation à mon enfant qui est, d'après moi, humaine, puis à encourager le bénévolat, le don de soi. Ça l'a vraiment reviré ma vie pour le positif. Au début, c'était pire. Maintenant c'est plus normal un peu à mes yeux parce que il vieillit, puis plus il avance, plus les souvenirs peuvent être bien ancrés dans sa mémoire. Quand il était petit, il avait 3 ans au diagnostic. Là, pour moi, c'était inconcevable là, qu'ils peuvent se rappeler de moi. Mais là, maintenant, quand on se voit, là, c'est constamment des beaux moments puis des belles activités. Mais qu'on travaille fort là-dessus. Puis tout ce que je fais au quotidien est fait en fonction de laisser ma trace pour lui dans le futur. Fait que le jour où je serai plus là, il va rester un peu de maman un peu partout. Là.
Elle est forte.
Ah non, elle est vraiment bonne, ouais. Sérieusement. Là. Puis elle m'expliquait que tu as différents stades d'acceptation quand tu reçois un diagnostic qui est fatal comme ouais. Ça. Elle dit quand ton diagnostic n'est pas fatal puis tu peux te battre pour t'en sortir, bien là, tu rentres en mode combattant. Quand tu reçois un diagnostic puis tu sais que tu vas mourir de ton cancer, c'est un deuil que tu fais. Elle dit, moi, je suis au stade d'acceptation totale. Je l'ai accepté. Maintenant, je m'assure de mener la meilleure vie possible pour moi et pour mon enfant. Je suis plus dans l'espèce de frustration que j'étais au début. Puis c'est exactement ça que je lui ai posé comme question à la fin. T'es pas fâchée contre ton médecin? Moi, le premier médecin que j'ai vu qui a refusé de me passer de mammo, j'aurais été en maudit après lui.
Il ne tente pas de poursuivre, de le dénoncer
exact.
Au collège des médecins. Il a quand même manqué de vigilance.
Ben
il aurait
oui.
dû, devant les symptômes, à tout le moins aller faire passer un test.
Puis elle a dit, je ne serais pas condamnée, moi, aujourd'hui, si on avait eu le diagnostic de bonheur. Je me serais fait opérer. Puis,
elle a tourné la page.
Alors, est-ce que tu en veux au médecin qui n'a pas su te diagnostiquer la première fois?
Non. Mes parents en veulent, par exemple. Mes parents, c'est normal, là, ça les fâche, mais moi, non. Puis, je pense qu'il n'arrive rien pour rien. Puis, où j'en suis présentement, je suis pas fâchée contre la situation. Je suis pas fâchée contre le fait d'être malade puis d'avoir un cancer. C'est un processus de deuil en, en partie là, d'avoir une maladie. Je suis rendue dans l'acceptation. Je suis pas en colère contre la personne qui a pas su diagnostiquer. Je suis en colère contre ceux qui vont pas avoir la drive que j'ai pour aller se battre pour les jeunes adultes. Il y en a beaucoup qui sont dans ma situation puis ils vont jamais aller reconsulter. Il y en a qui vont décéder parce qu'ils ont fait confiance mordicus à leur docteur. Et c'est ça qui me rend plus fâchée.
Parce qu'elle est dans une situation que plusieurs personnes, où il y a plusieurs centaines de personnes au Canada qui sont aussi, c'est les jeunes adultes atteints de cancer qui sont très rares à leur âge. Elle, il y a un médecin qui n'a pas voulu faire passer une mammographie. Pour une autre personne, ça va être un autre type d'examen pour un autre type de cancer. Et elle dit souvent, ce qui arrive, c'est que des années plus tard, au moment où le cancer est très avancé, où on a des symptômes très apparents, c'est là qu'on diagnostique puis qu'on se rend compte que ça fait 7-8 ans qu'on aurait dû être diagnostiqué. Ça, c'est les cancers chez les jeunes adultes. Mais ça, c'est un combat qu'on mène au quotidien parce qu'on se dit, c'est quoi la façon d'être le plus efficace possible dans le diagnostic, même si c'est rare. Même si j'ai une chance sur je ne sais pas combien d'avoir un cancer dans la jeune vingtaine, à partir du moment où j'ai des symptômes, c'est quoi le processus qui doit être enclenché pour s'assurer qu'une autre personne ne se retrouvera pas dans ma situation? Puis je ne sais pas c'est quoi la meilleure façon, parce qu'effectivement, il y a des coûts reliés aux examens. Il y a des
mais c'est
coûts...
Ça qu'on sait pas. Je ne sais pas jusqu'à... Ça peut être une erreur de bonne foi du médecin. C'est ça, c'est tel que tel. Mais est-ce que les médecins ont de la pression? 25-226, vous avez de quoi ajouter là-dessus? C'est pas la première fois qu'on entend parler de gens qui se battent pour avoir des tests, puis non, le médecin a pas voulu, puis ils ont pas assez fait de suivi. Est-ce que dans la machine, est-ce que dans le système, il y a une certaine forme de pression sur les professionnels? Hey, envoyez-en pas trop. On n'est pas capable, ça coûte cher. Alors, comme elle, il y avait peu de chances, compte tenu de son âge, que ce soit ça, on dit non. Malgré les symptômes, on dit non. C'est ça qu'on sait pas.
Quelques textos, là, concernant le privé, on nous indique que tu peux pas te faire soigner pour cancer dans le privé, que tu peux être là pour le suivi, mais que les tests et les traitements doivent être au public. Donc, on précise ça.
Non, tu peux pas te faire soigner cancer au privé, c'est pas ça que j'ai dit, mais tu peux avoir un médecin de famille au privé. Oui, tu peux aller au privé, tout le suivi, l'accompagnement, certains examens, radio, tu peux tout faire ça au privé. Quand même le temps de te faire opérer pour le cancer, non, il n'y a pas de privé.
Et c'est notre collègue Jonathan qui nous indique que M. Labeaume, lui, est soigné au Centre de recherche clinique et évaluative en oncologie à Québec, donc au public.
Oui, au niveau de, l'oncologie,
exactement.
C'est public.
C'est ça.
Mais au niveau de la médécine familiale, tu peux aller au privé.
Absolument, oui. Je fais juste la précision
pour
les détails.
C'est ça que j'aurais aimé qu'on sache, mais bon.